Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, premièrement dans le livre des psaumes, au chapitre 34 et au verset 8. C'est un verset que vous connaissez peut-être par cœur, psaume 34, verset 8. Il y a cette parole qu'on pourrait s'attribuer comme une promesse à ceux qui veulent bien lui obéir. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Vous voulez qu'on le relise ? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Il y a dans la parole de Dieu à plusieurs endroits le fait, il est nommé un ange particulier, un ange qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas un ange, mais celui de l'Éternel. Et lorsqu'on étudie la parole, on voit qu'il apparaît à plusieurs endroits. On pourra se souvenir peut-être d'Élie. Élie, alors qu'il était abattu, qu'il s'arrête sous un arbre, un genêt, et puis il dit, voilà, je voudrais mourir, Seigneur. Voilà. Je veux mourir. Et il s'endort tout déprimé. Et voilà qu'il se réveille, à côté de lui, il y a un gâteau qui est prêt. Il le mange, puis se rendort. Il se recouche, toujours déprimé. Puis il se réveille une deuxième fois et là, il voit l'ange de l'Éternel qui lui a fait un autre gâteau, un autre repas. Il lui dit « Mange, car le chemin est long. » Il se met à manger et avec ce repas du ciel, eh bien, il va tenir 40 jours. Il va marcher pendant 40 jours. À un moment de la vie difficile d'Élie, il s'est trouvé avec cet ange spécial, l'ange de l'Éternel, qui est venu à son secours. Alors qu'il aurait pu mourir dans le désert, cet ange lui a donné un repas qui lui a donné des forces. On a vu un autre endroit dans la parole de Dieu où il nous est parlé de Gédéon. Cette personne qui avait peur. Il était dans une période, il vivait dans une période de guerre. Il appartenait à un pays qui était asservi, à une autre nation qui venait régulièrement piller la sienne, piller son peuple. Et alors qu'il savait que l'ennemi allait arriver, il commence à rassembler un petit peu de récolte, à moudre ce qu'il peut, et puis il allait planquer la nourriture quelque part pour éviter qu'on lui pique. Et là, pendant qu'il faisait ça, lui qui se sentait tout petit, tout timide, il va voir encore une fois l'ange de l'Éternel apparaître à côté de lui. Et lui dire, vaillant héros. Lui qui se sentait tout petit, l'ange va lui dire, vaillant héros. Et il va l'utiliser plus tard, on le voit, pour remporter une grande victoire. Effectivement, le peuple qui avait l'habitude de venir commençait à arriver, et puis Dieu envoie Gédéon, lui et 300 hommes. Et à eux seuls, avec la force de Dieu, avec le secours de l'ange de l'Éternel, ils vont remporter une victoire sur des centaines de milliers de personnes. Ces faits sont réels. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça le secours de l'ange de l'Éternel. Et Dieu dit dans sa parole que cet ange-là, campe autour de ceux qui craignent Dieu. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu ? Ce n'est pas la peur de Dieu. Dieu n'a pas envie qu'on ait peur de lui. Il n'y a pas à avoir peur de lui, au contraire. Il nous aime. Mais c'est un saint respect de la personne de Dieu. Un saint respect de sa présence. Si vous rentrez dans un lieu comme celui-ci, où on parle de Dieu, où on parle de Jésus, il nous faut dans nos cœurs avoir un saint respect de Dieu. Parce que Dieu est au milieu de nous, par son esprit, et il lit dans nos cœurs à chacun. J'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous cet ange ? Est-ce que vous savez qui c'est cet ange, celui qui est appelé l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament ? C'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. On sait que dans le grec comme dans l'hébreu, ange veut dire messager. Et le messager par excellence, la parole faite chair, c'est Jésus. Et le messager par excellence de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Son Fils qui est venu nous donner les paroles de Dieu pour nous sauver, parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Le messager par excellence. Et le message de Jésus, c'est celui-ci. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Qui que tu sois ce soir, que tu aies déjà entendu parler des dizaines de milliers de fois de Jésus, que tu en aies entendu parler simplement comme un petit Jésus dans une crèche, comme un Jésus qui est venu il y a 2000 ans et qui est mort sur le bois de la croix, s'il est mort sur le bois de la croix, c'est pour toi. Et il te dit ce soir, voilà le message de la part de Dieu. Voilà le message. J'ai donné ma vie pour toi, pour te sauver. Sauver
de nos péchés. La parole de Dieu nous enseigne que tous les hommes, on est tous au même niveau ce soir. On est tous pécheurs. On a tous menti, au moins une fois. On a tous transgressé, entre guillemets, la loi de l'Éternel. Ça nous est peut-être tous arrivé de griller un feu rouge, mais il y a une loi bien plus importante, celle de Dieu, qui dit par exemple, tu ne mentiras pas. Et il dit au-delà de ça, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ta pensée. Est-ce que vous avez aimé Dieu de tout votre cœur? Moi, je ne l'ai pas toujours fait. Donc, on est tous au même rang, tous pécheurs. C'est ce que dit la Bible dans l'Épître aux Romains, il dit, voilà, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès au paradis par nos propres mérites et par nos propres forces. On a plutôt accès à la colère de Dieu à cause du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Mais dans son amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour payer pour nos péchés. Et ce Jésus, ce messager, cet ange de l'Éternel, est venu à notre secours. Il a donné sa vie. Il est mort sur le bois de la croix. Son sang a coulé. Et son sang est la preuve qu'il a donné sa vie pour nous. Et à cause de sa mort, puisqu'il a payé pour nous, et bien simplement par la foi, par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés en acceptant ce sacrifice que Jésus a fait pour nous. Nous allons aller plus loin et je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles, si vous en avez une, dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Et on va voir un petit peu que trois personnes ont aussi vu l'ange de l'Éternel les secourir dans une situation bien désespérée. Et on va tirer pour nous ce soir trois promesses. Trois promesses de la parole de Dieu, de ce récit, de l'histoire de ces trois hommes, trois jeunes hommes. Trois promesses qui sont réservées à tous ceux qui sont prêts à croire. À croire dans l'ange de l'Éternel, à croire en Dieu. Daniel chapitre 3, et à partir du verset 13, je remets un peu le contexte. Ces trois hommes ont été emmenés comme esclaves. On a la preuve, on a encore les ruines de Babylone aujourd'hui, on les a trouvées, ça y est, ça fait quelques années maintenant. Il n'y a pas trop longtemps, on n'y croyait pas. On ne croyait pas que cette ville existait parce qu'on ne retrouvait aucune ruine. Et on disait pourtant que c'était une ville avec des millions, des centaines de milliers de personnes. Mais aujourd'hui, on a retrouvé les ruines. On sait que cette ville a existé. On a vu dessus marqué le nom des rois, etc. Tout ce que la Bible a dit, on a la preuve aujourd'hui que c'est vrai. Et ces trois jeunes hommes ont été emmenés captifs. Ils ont été emmenés esclaves par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Et ce roi avait pour habitude, lorsqu'il faisait des conquêtes, d'enlever les jeunes hommes. Les jeunes hommes des pays où il allait, où il remportait des victoires. Il emmenait les jeunes hommes qui avaient reçu une éducation depuis tout petit. Les jeunes hommes de famille noble. Et il les emmenait captifs, c'était ses esclaves. Et pendant 3 ans, il leur faisait subir un peu un lavage de cerveau. Il les emmenait dans des grandes pièces, on a retrouvé ces pièces. Et puis dans ces grandes pièces, il y avait des tables qui étaient mises devant. Des tables. Et pour leur faire oublier leur pays, on leur donnait toutes sortes de nourriture à foison. Toutes sortes de délices, comme ils n'avaient jamais vu. On leur mettait aussi beaucoup d'alcool pour qu'ils s'amusent, qu'ils s'éclatent. On leur mettait beaucoup de filles à disposition pour qu'ils oublient le fait qu'ils étaient des esclaves. Et une fois qu'on leur avait fait bien oublier ça, qu'on les avait fait bien profiter pendant un temps, on les mettait à l'école, on leur apprenait un métier. Afin qu'ils soient au contact du roi et qu'ils servent le roi. Et ces trois jeunes hommes vont se retrouver dans la même situation que ce qui se faisait à l'époque. Ils sont dans cette situation-là et ils choisissent de ne pas se mêler des mets du roi, comme Daniel, ce quatrième personnage qu'on voit dans ce livre. Ils choisissent de ne pas manger de la nourriture qui est sacrifiée aux idoles. Ils choisissent de ne pas se prosterner devant des statues d'or. Ils choisissent de ne pas adorer toutes sortes de dieux de ce pays-là. Ils avaient un Seigneur vivant dans leur cœur, en qui ils avaient confiance. Ils savaient qu'il pouvait les sauver. Et alors que le roi Nebuchadnezzar décide de faire une grande statue, haute comme 8 étages, recouverte d'or, le roi a décidé et a fait passer un ordre dans toute la nation. Il a dit, voilà, quiconque entendra jouer de la musique avec tel instrument, quand il l'entendra, il se mettra à terre, il se prosternera devant cette statue. Et ceux qui ne le feront pas seront tués et seront punis de mort. Et on voit que les trois jeunes hommes vont refuser de le faire. On ne veut pas se prosterner. Ils vont être dénoncés auprès du roi et le roi les fait appeler. Et on en arrive à cette lecture. Donc Daniel chapitre 3 verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré?
que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre eux. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier ces hommes et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, le roi s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shédrak, Meshach, et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shédrak, Meshach et Abednego sortirent du milieu de feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Et on voit qu'après il va faire passer un édit nouveau, celui d'avoir un saint respect pour le Dieu de ces 3 hommes. Amen. 3 jeunes hommes, 3 jeunes garçons qui ont osé se différencier du monde. Dans le monde, c'est bien de flirter, d'aller de fille en fille, de gars en gars. Dans le monde, c'est super de fumer, ça fait cool. Dans le monde, c'est pas grave de s'enivrer, de se détruire comme cela. Toutes ces choses sont anodines dans le monde et de toute façon, tout le monde le fait. C'est pas grave de divorcer. Mais devant Dieu, ça l'attriste profondément. Il n'a pas fait l'homme pour ça. Il a fait l'homme pour une meilleure vie. Un meilleur avenir, une meilleure manière d'utiliser sa vie qui lui a été prêtée. Puisqu'on le sait que la vie d'un homme, elle n'est pas éternelle sur la terre. Il lui est donné de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dit la parole de Dieu. Mais dans le monde, ce n'est pas grave. Mais eux, ils ont décidé de faire différemment du monde. Ils ont osé se positionner. Et la première promesse que j'aimerais noter dans cette affaire, la première chose qu'ils ont vécue, c'est que Dieu les a protégés du feu. La deuxième promesse qu'on peut faire nôtre, c'est qu'ils n'ont pas été tout seuls et que nous ne serons pas tout seuls si nous faisons confiance en Dieu. La troisième promesse, Jésus les a restaurés, les a relevés. On va le voir ensemble. Et quelqu'un ce soir est peut-être dans une situation, il aimerait bien s'en sortir, trouver du secours autour de lui, il n'a rien sur quoi s'appuyer. J'aimerais vous dire, tournez-vous vers Jésus, il va vous relever. Alors premièrement, les flammes. On voit que ces hommes ont été jetés dans une fournaise ardente. Ce qui se passait à l'époque, on construisait ce genre de statues. Et vous savez, à l'époque, ils avaient des idées bizarres, comme aujourd'hui, vous me direz. C'était que dans ces statues, ils faisaient un endroit où on mettait du feu, on faisait du feu. Et le métal en fusion, forcément, changeait de couleur. Et quand le métal en fusion changeait de couleur, ils disaient, « Ah, ça y est, c'est notre Dieu qui est présent, qui nous parle. » Et ils adoraient les statues. On a retrouvé beaucoup, beaucoup de statues comme ça. Encore en Afrique, il y a les totems, les choses comme ça. Ou chez les Indiens, on a retrouvé toutes sortes de choses comme ça. Même les gens offraient leur premier-né, les bébés, en sacrifice humain, à ces faux dieux.
Et dans ces statues, il y avait donc ce qu'on appelait une fournaise, et on chauffait. Et quand quelqu'un ne voulait pas se prosterner face à cette statue, eh bien on la jetait dedans, et elle brûlait dedans. Et ces hommes ont été jetés. Mais gloire à Dieu, ils ont été protégés, le feu ne leur a rien fait. Je peux vous dire par expérience, j'ai brûlé entièrement, que le feu, ça brûle. Vous allez me dire, il n'y a rien de plus naturel. Mais le feu, on n'y échappe pas comme ça. Ça fait mal le feu. J'ai encore des cicatrices, tout mon corps, de ce que j'ai vécu quand j'ai passé par le feu. Et mes cheveux, qui ont brûlé aussi, ils ont senti pendant 3 mois le carboniser, le cramer. Mon épouse, qui était ma fiancée, peut vous le dire. Pendant longtemps, l'odeur du feu s'est collée à moi. Mais eux, même pas l'odeur ne les a atteints. C'est ce qui est marqué. Et moi, je le crois, parce que l'abîme ne m'a jamais trahi. L'odeur du feu ne les a jamais touchés, jamais atteints. Et c'est un peu une promesse qui nous est donnée. On sera épargné du feu. Si nous nous confions en Jésus, lui qui est mort à la croix pour nous éviter l'enfer, alors nous ne vivrons pas le feu de l'enfer. Si nous croyons que Jésus a payé pour nos péchés, eh bien, nous allons échapper au feu de l'enfer. La Bible nous parle de l'enfer, non pas pour nous embêter, ni nous faire peur, ni nous forcer à croire en lui, mais parce que Dieu nous aime. Et le propre de l'amour, c'est d'avertir. Et il nous dit, voilà, celui qui ne veut pas de Jésus-Christ, celui qui ne veut pas du pardon offert gratuitement à Jésus-Christ, il aura part à la sentence. Il aura part à ce qui était réservé normalement pour le diable et pour les démons. Jésus a subi l'enfer sur le bois de la croix pour que nous ne subissions pas l'enfer. Il suffit juste de croire. Sur le bois de la croix, il a eu la souffrance. Il a eu toutes sortes d'angoisses. Il y a eu les ténèbres pendant plusieurs heures. Et je vous invite à lire dans le livre de Matthieu au chapitre 27 tout ce qui s'est passé sur le bois de la croix. L'agonie de Jésus, ce qu'on appelle la passion du Christ. Premièrement, ce que Dieu nous évite de vivre, c'est l'enfer. Et moi, je sais aujourd'hui, non pas parce que je suis meilleur que vous, mais parce que je crois en Jésus-Christ, que je n'irai jamais en enfer. Et le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je n'irai jamais en enfer. Je le sais, c'est une paix que j'ai reçue de Dieu, et je le sais malgré tout. Et quand je brûlais dans mon accident, j'avais une paix, parce que je savais que Dieu était avec moi. Dieu était avec moi. Dans Jude, au chapitre 1, il est dit « Arrachez-les à l'enfer ». Arrachez-les en enfer. Jésus l'a fait quand il était sur la terre. Il parcourait des kilomètres et des kilomètres pour rencontrer une personne, pour parler à son cœur, parce qu'il savait qu'elle avait besoin d'entendre la vérité, que Dieu l'aimait et que même si elle était pécheresse, Dieu était prêt à la pardonner. Et Jésus a arraché les âmes à l'enfer. Et nous encore aujourd'hui, ce soir, notre but, c'est de vous arracher à l'enfer. Je vous ai dit, si on a tous part au même châtiment, on a aussi tous part par la foi, à la même grâce. En Jésus-Christ. Et mon souhait, c'est que vous n'ayez pas part à ces flammes-là. La deuxième flamme dont la Bible nous parle, c'est l'épreuve. La Bible compare l'épreuve, les tentations, à comme une fournaise. Et dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 12, il est dit, ne voyez pas la fournaise de l'épreuve comme quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais au contraire, réjouissez-vous. Tiens, quand on est éprouvé, est-ce que vous aimez passer par un moment difficile dans la vie? Moi, j'aime pas. Hein. Bon, vous êtes comme moi, rassurez-moi. Vous êtes fan, vous, d'avoir un pneu qui crève, d'avoir toutes sortes de choses comme ça, un tuyau qui fuit d'un coup au moment où il n'y a plus d'argent pour faire venir le tuyauteur, j'allais dire. Hein? On n'aime pas tout ça. Et pourtant, le Seigneur, il nous dit, ne t'inquiète pas. Même ces flammes-là. Il dit une parole importante pour moi, dans la parole de Dieu encore, un encouragement pour moi. Il est dit que, je vais vous le lire, « Aucune tentation » Ah, ça commence comme ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue. » Et en grec, le mot « tentation », c'est le même que le mot hébreu. Je vous laisse chercher. 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13, « Aucune épreuve ou tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Voilà la promesse de Dieu. Si vous passez par la fournaise de l'épreuve, ne vous inquiétez pas. Il n'y en aura pas qui sera plus forte que vous. Vous allez peut-être passer par un moment difficile, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez en sortir victorieux parce que j'ai préparé le moyen d'en sortir. Quelqu'un est-il dans l'épreuve? Qu'il s'attache à cette parole. Jésus, l'ange de l'Éternel, a dit qu'il m'aiderait dans l'épreuve. et il me fera sortir de l'épreuve. La deuxième promesse que j'ai tirée, c'est qu'ils n'étaient jamais tout seuls. Ils n'ont pas été tout seuls dans leur épreuve. Jésus était avec eux. L'ange de l'Éternel était là. De 3 hommes qu'on a jetés, il y en avait 4 au final. Il n'y en avait 4. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il est dit ceci, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ceux qui se confient en Jésus, ceux qui croient en Jésus, qui s'attachent à Dieu, qui croient dans la parole de Dieu, alors ils reçoivent cette promesse de la part de Jésus, c'est qu'il est avec vous par son esprit chaque jour de votre vie. » Chaque jour. Et vous pouvez passer par les pires épreuves, vous savez que Jésus est là. Et ça vous donne la paix. Je me souviens, les vêtements étaient encore en feu. Les vêtements brûlés, je brûlais sur place. Et cette pensée qui m'est venue, c'est, si Dieu l'a permis, il va t'aider à s'en sortir. Il va t'aider à t'en sortir. Et j'ai eu la paix. J'ai enlevé mes vêtements qui brûlaient, je les ai posés, j'ai éteint le feu. Et puis on a attendu les ambulances. Et dans l'ambulance, je chantais. Je vous ai déjà chanté ce petit chœur. Qui s'est rappelé à moi. Dans le psaume, chapitre 37 et verset 28, il est dit « Car l'Éternel aime la justice. » Si l'Éternel, il n'aime pas le péché, lui, ce qu'il aime, c'est la justice. Il n'y a pas plus juste que Dieu. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire en sorte que les pécheurs soient considérés comme innocents. Il ne peut pas dire « Ah non, mais toi, t'as menti, t'as tué, t'as fait toutes sortes de... » C'est pas grave, c'est rien. Dieu aime la justice. Il fallait que quelqu'un paye, il fallait payer pour votre péché. Mais par contre, une fois qu'il a déclaré son verdict, rien ne l'empêchait d'envoyer son fils payer à votre place. C'est ça qu'il a fait. Dieu aime la justice. Et il est dit, il n'abandonnera pas ses fidèles, ceux qui lui restent attachés. Ils sont toujours sous sa garde. Amen. Et ce n'est pas une petite garde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et dans la parole, on voit, hein, à un moment, il y a quelqu'un qui est venu pour s'en prendre au prophète. Et le serviteur, il a eu peur, il a dit « Oh là là, tu vois pas l'armée qui arrive ?» Il a dit « Seigneur, ouvre-lui les yeux. » Et d'un coup, ses yeux se sont ouverts, il a vu toute l'armée de l'Éternel qui a été autour. Oh, ils sont encore plus nombreux, ceux qui sont avec le Seigneur. L'armée de Dieu est plus nombreuse que ceux qui sont contre nous. Amen. Ça, c'est une promesse de Dieu. On est toujours sous sa garde, il ne nous abandonnera jamais. Vous savez pourquoi nous ne serons jamais tout seuls? Parce que Jésus, il a porté la solitude qui nous attendait. Il s'est retrouvé tout seul pour aller à la croix. Il a été abandonné, même de son père, puisque son père ne pouvait pas regarder le péché. Jésus s'est chargé de nos péchés. Il les a portés jusqu'au bois de la croix et il les a cloués dans sa chair, la Bible nous dit. Et même son père, qui était là, qui l'a toujours regardé, qui l'a toujours suivi, qui a toujours confirmé la parole qui sortait de la bouche de Jésus, à un moment, le regard de Dieu s'est détourné. Jésus s'est écrié, « mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui, il s'est retrouvé seul. Pour que nous ne soyons jamais seuls. Vous connaissez ce poème brésilien, hein? Cette personne un jour qui a vu sa vie un peu, qui s'est retrouvée avec Jésus en rêve, et elle revoit toute sa vie. Et puis elle parle avec Jésus et elle lui dit « Qu'est-ce que c'est ?» C'était au bord d'une plage, comme si la vie ça avait été une marche au bord d'une plage. Et dans le sable, elle voit deux traces de pas, alors deux pieds puis deux pieds. Elle dit à Jésus « Mais qu'est-ce que c'est ces deux traces à côté des miennes ?» Et Jésus lui dit, c'est moi, parce que je ne t'ai jamais abandonné. Tu ne m'as pas vu, mais j'étais là, tout le temps. Et puis ils avancent, ils reparcourent un peu la vie. Puis au bout d'un moment, ils voient qu'il n'y a plus que une trace de pas. Puis elle dit, mais comment ça se fait? Tu n'étais pas là. Tu m'as dit que tu m'abandonnerais jamais. Il a dit, oui. Mais là, c'est que tu étais trop fatigué pour marcher. Et c'est moi qui t'ai porté. C'est pour ça qu'il n'y a pas tes traces. C'est les miennes que tu vois là. Parce que Jésus, ce qu'il promet, il l'accomplit. Amen. Je me souviens quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, parce que je crois aussi à cette expérience. Quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, alors que j'avais 11 ans, avant j'allais à l'école tout timide. J'étais très très susceptible. Si vous me faisiez une blague sur mes vêtements, quoi que ce soit, j'allais être malheureux pendant des semaines. J'avais des pensées de suicide à cause de ça. Et je me souviens, mon père, un matin, il me dit, mais Jérémy, ce que tu as besoin, c'est du secours du Seigneur. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ça qu'il te faut, cherche-le. Est-ce que tu veux prier? Je dis, d'accord. Et puis on a prié. Et je me souviens, sur le lit de mon père, alors qu'on priait tous les deux, Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. J'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Et quand je rentrais chez moi après, je marchais plus pareil. Quand j'allais à l'école, pardon, je marchais plus pareil. J'étais tout content. J'avais comme un coach à côté de moi, comme une personne qui était là, qui m'encourageait tout le temps. Et je vous encourage à mon tour à faire de même, à chercher à être baptisé dans le Saint-Esprit. Jamais tout seul, toujours avec le Seigneur Jésus, l'ange de l'Éternel avec nous. C'est une promesse de Dieu. C'est mon père, lorsqu'il rentrait du travail, le soir, tard, il marchait dans la rue et il faisait sombre. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là et c'était des quartiers pas très bien fréquentés. Et il marchait et il levait la tête comme ça et il voyait toutes les étoiles du ciel. Et il disait, c'est mon père qui a fait ça quand même. C'est mon père. Et il marchait tout joyeux parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il pensait à son Seigneur et le Seigneur était avec lui. Amen. Et la troisième promesse qu'on peut aussi s'approprier, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Regardez dans Daniel, reprenez avec moi, dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 20. Puis, Nebuchadnezzar commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Donc on voit bien que les hommes, les trois hommes ont été liés. Ils n'étaient pas libres de leur mouvement. Et il nous est dit qu'ils n'ont pas été simplement conviés à rentrer gentiment dans la fournaise ardente. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et la fournaise était tellement chauffée, il est dit sept fois plus que ce qu'il convenait. C'est même pas sept fois plus que d'habitude, c'est sept fois plus que ce qui était raisonnable. Ça devait vraiment chauffer, au point que quand les soldats ont ouvert la porte, ils ont été eux-mêmes tués à cause du feu qui est venu. Et eux, ils sont retrouvés donc jetés. Vous pensez qu'il y avait quoi dans la fournaise ? Un pavé bien fait, des cotons, ils sont tombés dans le coton, ils sont tombés dans des coussins, vous savez, des batailles de coussins qu'on faisait quand on était petit, c'est moelleux, ils sont tombés dans quoi? Dans les braises? Peut-être dans des bûches? Dans du charbon? Qu'est-ce qu'il y avait là? Et toutes sortes d'objets, de masses, de bois, de carburant, de comburant, j'en sais rien, il y avait toutes sortes de choses. C'était pas quelque chose où on marchait librement. C'était un endroit rempli de braises ardentes. Ils ont même été jetés, liés. J'ai fait le test dans ma chambre tout à l'heure. Je me suis mis par terre, les mains liées comme ça ou comme ça, et j'ai dit « relève-toi ». C'est pas évident. Mais regardez ce qu'il est dit juste après. Verset 25. Le roi reprit et dit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien et qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal ». Et c'est la troisième promesse que je vois et que je veux vraiment m'approprier et que je vous encourage à vous saisir ce soir. C'est que ces hommes, même si dans les circonstances qui étaient les leurs, ont été jetés, mis par terre, il nous est dit même un moment, si vous le lisez, verset 23, ils tombèrent, ils sont tombés au milieu de la fournaise. Alors qu'ils tombent, liés et qu'ils sont jetés, le roi va les voir debout, déliés et en train de marcher. Parce que quand Jésus est là, il ne vous regarde pas par terre, dans votre difficulté, dans votre épreuve, dans votre maladie. Mais Jésus vous restaure, Jésus vous relève, Jésus vous guérit, Jésus vous tire de votre situation malheureuse, Jésus vous donne un travail si vous en avez besoin. À un autre endroit, il dit qu'il faut travailler. Sinon, si on ne veut pas travailler, qu'on ne mange pas non plus. Parce que c'est normal, si on veut manger, de travailler. Et il dit même tout travail mérite son salaire. Alors s'il nous dit qu'il nous faut travailler, vous ne croyez pas qu'il est capable et que c'est dans sa volonté de nous donner un travail? Jésus ne va pas nous sauver, nous dire « je te pardonne, mais reste dans ton péché, reste dans ta galère, reste dans tes problèmes ». Mais la troisième promesse que je vous encourage à saisir, vous qui êtes peut-être dans une situation malheureuse, dans un désespoir, peut-être une tristesse, peut-être une culpabilité, mais croyez en Jésus. On a une multitude d'exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que Jésus prend soin des hommes et des femmes qui croient en sa parole. Un jour, il va rencontrer une femme, elle avait déjà divorcé 5 fois, elle ou son mari, peu importe, ses maris, pardon. Et celui qu'elle avait, c'était même pas le sien d'homme. Elle était en train de commettre un adultère. Jésus va pas venir en lui disant « voilà, tu mérites l'enfer », bien que elle était dans un péché, comme peut-être beaucoup l'ont été, tous on l'a été. Mais voilà ce qu'il va lui dire. Il va lui dire « demande-moi à boire ». Parce que au-delà de notre corps, il y a notre âme qui est peut-être assoiffée de justice, de paix. On est inquiet, on est tourmenté parce qu'on sait que notre vie n'est pas en règle face à Dieu. Et qu'est-ce qui va venir si je venais à mourir ce soir? Qu'est-ce qui va m'arriver si Dieu revenait ce soir, si Jésus revenait ce soir, ou si ma vie s'arrêtait? Je ne sais pas de quoi sera fait, de quoi demain sera fait. Ce soir, il me faut faire la paix avec Dieu. Peut-être votre tête, votre esprit est tourmenté par ces choses, inquiété. C'est pour ça que vous êtes venu ce soir. J'aimerais vous dire que Jésus n'est pas là pour vous écraser, mais il est là pour vous relever. Et malgré toutes les circonstances, il veut vous voir debout, marcher avec lui. Marcher dans sa présence. Ces hommes étaient liés. Peut-être quelque chose vous lie, que ce soit la cigarette, l'alcool, la colère, la violence. Le Seigneur veut vous délier. Est-ce que c'est les flammes qui ont brûlé que les liens? Est-ce que c'est Jésus qui a enlevé les liens? Peu importe. Jésus, dans sa présence, a fait un miracle. Ils ont marché, les mains libres.